Bonjour à tous, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis à J-4 avant la Coupe du Monde de football, sans doute le spectacle, en tout cas la compétition sportive la plus suivie de la planète. Plusieurs milliards de téléspectateurs attendent le coup d'envoi jeudi prochain en Russie. Et combien d'entre nous seront devant le premier match des Bleus le 16 juin face à l'Australie? Dès 13h30, France Inter ouvrira le débat. Pourquoi le foot est-il devenu le plus grand spectacle mondialisé? Comment s'explique ces collective qui s'exprime tous les 4 ans, passion qui traverse nos sociétés, qu'on aime le foot ou pas. Notre invité dans une quinzaine de minutes est écrivain, c'est l'une des plus belles plumes du journalisme sportif en France. Spécialiste de football au journal L'Équipe, le grand face-à-face reçoit Vincent Duluc.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va démarrer ce retour sur la semaine avec un rapport qui était très attendu. C'était mardi dernier. Après 4 mois de débat, le Conseil consultatif national d'éthique rendait public la synthèse de ses travaux. Entre autres sujets ouverts à la discussion, la recherche sur les embryons, la fin de vie, mais aussi la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes et qui divise toujours ceux qui la réclament et ceux qui n'en veulent pas. Avant de parler du fond, un mot de la forme. On a l'impression que tout est fait pour éviter des tensions comme celles qui se sont exprimées au moment du débat sur le mariage pour tous il y a quelques années. 271 débats ont été organisés partout en France. 21 000 personnes y ont participé. C'est un succès, Natacha Polony.
Un succès, je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident que la leçon a été tirée de ce qui s'est passé pendant, la leçon politique, de ce qui s'est passé pendant le débat sur le mariage pour tous, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Emmanuel Macron d'éviter à tout prix une crispation de l'opinion. Hélas, on peut regretter que cette peur d'une radicalisation des positions nous fasse passer à côté d'une bonne partie des réflexions qui devraient être les nôtres à titre collectif dans ce débat. C'est-à-dire que tout le monde se focalise sur la PMA. La révision des lois de bioéthique aujourd'hui dépasse très largement ce sujet-là. L'évolution des biotechnologies devrait nécessiter véritablement une discussion. Or, pas grand-chose n'a eu lieu justement parce que le but est que rien n'ait lieu.
Raphaël ?
Non, clairement, l'objectif était de montrer qu'on est dans la concertation. Donc ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, déjà le rapport, en gros, on n'a pas grand-chose dans ce rapport. Et par ailleurs, l'idée maîtresse est d'intégrer au maximum et en réalité, effectivement, de taire un certain nombre de débats, en tout cas de les limiter. Et ça, c'est un problème. On verra, c'est que le début d'un processus.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Je prends le sujet de la PMA parce que c'est celui qui a été le plus discuté au cours de ces 271 rencontres. Pas de consensus. Comment faudra-t-il le trancher? Parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Elle n'est toujours pas inscrite dans la loi.
Je pense que ça reste une promesse et qu'elle sera tenue, puisque de toute façon, on voit bien que l'évolution des sociétés, quelle que soit l'absence de consensus, va vers cela. Donc, ça passera. Le problème n'est pas là. Ce qui est intéressant dans ce rapport...
Le problème est aussi là, puisqu'on essaye d'éviter.
Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est le double constat d'une absence de consensus et du fait que, en effet, sur certains sujets, il y a des philosophies qui sont totalement divergentes et qui relèvent d'une vision profonde de ce qu'est l'inscription de l'humain dans une société soumise à l'évolution des sciences.
Chacun est renvoyé à sa conscience.
En revanche, il y a donc ce constat et il y a le constat d'une spécificité française. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que les membres du Comité consultatif national d'éthique disent que tout de même, même avec des avis divergents, il y a quelques petites spécificités qui émergent, comme cette idée de gratuité, cette idée de l'autonomie face à la science. Or, tout cela est en train petit à petit d'être, disons, effacé, gommé, sous les coups d'une globalisation culturelle qui fait que la vision française de la bioéthique s'efface. Or, cette remarque du Comité consultatif national d'éthique me semble importante.
Mais bien sûr, c'est le souci d'extraire des logiques de marché les questions éthiques et les questions scientifiques. Et donc, c'est à mon avis extrêmement important. Suite à ces consultations, c'est évidemment le politique qui va trancher. C'est des questions qui relèvent de l'ordre de la cité. Et donc, le politique a toute légitimité ensuite à prendre des décisions qui vont nécessairement frustrer et même mettre en colère une partie de la société. Et ça, on voit bien sur des sujets pareils. Ils sont passionnant parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir une position totalement dogmatique sur ces sujets. Et en même temps, il est nécessaire de trancher. Alors, qu'est-ce que
est-ce que le sujet a été tranché? C'était une promesse d'Emmanuel Macron, candidat.
Donc c'est pour ça que je dis que là, on en met à une étape. Et que la vraie question, c'est qu'est-ce que va décider le politique? Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce que va décider le politique sur la PMA? Moi, je pense aussi que Emmanuel Macron va tenir ses engagements de campagne là-dessus. Mais sur la congélation des ovocytes, par exemple, qui est une question fondamentale soulevée par le rapport, qu'est-ce que va être la décision? Et donc là, on pourra réagir politiquement. L'enjeu, là, c'était d'abord de désamorcer la critique principale qu'avait visée François Hollande, qui était de dire « vous n'avez pas pris le temps de la consultation ».
Mais la manif pour tous, alors, est-ce qu'elle appartient au passé ou est-ce qu'elle est encore capable de mobiliser? On imagine que c'est ça qu'il y a dans la tête des personnes qui planchent sur le sujet, notamment à l'Élysée.
L'idée, c'était de la désamorcer.
Dans les partis politiques, la manif pour tous, elle a perdu le précédent combat contre le mariage pour tous et contre l'adoption par les couples homosexuels.
Je pense que nous aurions tort de nous focaliser sur la question politicienne qui consiste à savoir si la manif pour tous a encore une puissance de mobilisation.
C'est pas qu'une question politicienne.
Non, mais premièrement, sur la PMA, la question est très vaste. D'abord, il faudrait...
La PMA pour toutes.
Oui, de temps en temps, il faudrait préciser qu'il y a toutes sortes de PMA, oui. Qui ne posent pas les mêmes problèmes. Une fécondation in vitro de la part d'un couple hétérosexuel ne pose absolument pas les mêmes problèmes que, si on veut rester sur les couples hétérosexuels, une insémination avec donneur. Ça n'est absolument pas la même chose.
Et là, la question est d'ouvrir la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires.
Alors justement, sur les couples lesbiennes, le vrai sujet, où est-il? Il est sur la question du remboursement. Est-ce que c'est à l'État de rembourser, c'est-à-dire d'induire l'idée que l'État doit compenser ce qui relève d'une façon d'être et d'un mode de vie et d'une identité, à savoir le fait d'être homosexuel et donc de ne pas être en couple avec quelqu'un de l'autre sexe et donc de pouvoir procréer naturellement. Voilà, la question qui va se poser, or elle n'est pas tranchée politiquement. Mais, encore une fois, les sujets de
bioéthique
sont beaucoup plus
vastes. Vous êtes favorable à la PMA pour les couples homosexuels, enfin les femmes lesbiennes et aux femmes célibataires ?
Très honnêtement, je m'interroge pour une raison, c'est que cela entérine l'idée justement que l'État doit combler ce qui relève de cette identité spécifique. Et donc, qu'en gros, il appartiendrait à la société de répondre
à
toutes ces demandes.
Vous êtes favorable ?
Moi, j'y suis favorable. Pourquoi ? Parce que autant je suis défavorable à la question de la GPA, mais mon principe, c'est... L'égalité tant que cela et la liberté tant que cela ne nuit pas à autrui. Et sur la question de la PMA, de toutes les objections que je lis, il n'y en a aucune qui me montre que l'extension de la PMA pour toutes nuit à quiconque dans la société. On est sur la même logique, pour moi, là, que l'opposition au mariage pour tous, c'est-à-dire l'opposition à une conquête d'un droit. Et un droit qui n'invalide pas le droit des autres et qui ne retourne pas une question sociale.
Vous qui êtes à ce point
Natacha,
sensible à la question du collectif, mm-hmm. Raphaël, il me semble que dans la façon dont vous prenez le problème, vous rejoignez les libéraux utilitaristes, alors que vous n'êtes pas sur cette position-là, dans la mesure où tout le problème est de savoir comment on définit d'abord ce qui nuit et à qui, et ensuite, il n'y a aucune fin si la logique est justement d'autoriser tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Ben non.
Et la question est celle des limites.
Ben bien sûr, et la question des limites, elle surgit par exemple si on parle de la GPA. Et elle surgit de manière évidente. Moi, je suis tout à fait être d'accord sur plein de types de sujets avec les libéraux quand il s'agit des libertés individuelles. Mais ma principale critique vis-à-vis des libéraux, c'est quand ils pensent que la conquête des droits individuels suffit à faire une cité ou à faire une république.
La procréation n'est pas un droit, c'est un état de fait.
Non, le droit
c'est pas
de
un droit.
Mais le droit de.
Enfin, c'est tout le problème est de savoir comment on définit un droit.
Quand on a la possibilité scientifique d'avoir un droit, eh bien, le fait de le refuser ne peut se justifier que si ce droit enlève quelque chose à autrui.
Moi, donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous en arrivons à l'ensemble des sujets de bioéthique, mm-hmm. c'est-à-dire la question de savoir si tout ce qui est possible scientifiquement doit pouvoir être fait.
Non.
On va voir arriver le virus
artificiel
et on va voir arriver la possibilité de manipuler l'ADN de façon extrêmement simple.
Congeler les ovocytes.
Et certains parlent d'un risque nouvel eugénisme. Effectivement, il y a la question de la congélation des ovocytes.
C'est hyper important pour les femmes.
Bien sûr, mais il y a plein de questions, et pour le coup qui nous concernent tous, la question de l'euthanasie, du suicide assisté, on a évoqué un supposé droit à mourir pour l'attribuer ou le reconnaître aux patients atteints de maladies incurables et dont l'espérance de vie est inférieure à 6 mois. Bref, chacun est renvoyé à sa conscience et on sent bien qu'il y a beaucoup de débats. Un mot, Natacha, et on va changer de sujet.
Mais il y a aussi, pardon, quelque chose qui relève des biotechnologies dans la capacité à manipuler l'ADN. Et ça passe à l'as parce que ça a l'air de moins nous concerner. Aujourd'hui, des scientifiques canadiens ont réussi à recréer en laboratoire le virus de la variole en commandant des portions d'ADN sur Internet. Je veux dire, la question de savoir comment on régule ce genre de choses, c'est une question essentielle. Aujourd'hui, c'est laissé au libre choix des scientifiques parce qu'il s'agirait de ne pas entraver le progrès. Donc, ces questions-là mériteraient aussi qu'on les pose.
C'est bien pour ça qu'il y a des consultations nationales et qu'il y a ensuite le politique qui va trancher. C'est qu'en France, justement, on n'est pas dans cette logique-là et ça n'empêche pas les conquêtes de liberté individuelle.
Et on n'a fait qu'entrouvrir les très nombreuses questions soulevées par le Conseil d'éthique à suivre. Donc, le duel continue.
France Inter. Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
C'était en Italie, mercredi dernier. Le gouvernement de Giuseppe Conte prenait officiellement ses fonctions après un vote de confiance du Parlement.
Si le populisme est l'aptitude de la classe dirigeante à écouter les besoins des gens, si anti-système signifie mettre en place un nouveau système qui retire les privilèges, nous méritons ces qualificatifs.
Et avec Giuseppe Conte, c'est un gouvernement donc populiste et anti-système de plus qui arrive au pouvoir en Europe après la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie. Quelques pays de l'Union résistent pourtant à cette lame de fond. L'Espagne, qui vient de se choisir un gouvernement socialiste, majoritairement féminin, pro-européen. Pedro Sanchez est celui qui va conduire ce gouvernement espagnol. Exception espagnole dont on va parler tout à l'heure. Exception française aussi. Intéressant de lire un édito d'Alain Duhamel dans Libération cette fin de semaine où il explique justement cette exception française, notamment grâce aux institutions de la Ve République. Est-ce que vous partagez le diagnostic, Natacha ?
Alors, c'est tout le problème. On écoute Giuseppe Conte dire « Nous sommes populistes parce que nous défendons le peuple et nous sommes anti-système parce que nous voulons un autre système qui renverse les privilèges. » Et ensuite, on lit Alain Duhamel expliquer « Ouf, grâce à nos institutions, nous avons échappé à cette vague qui est une vague poussée par les électeurs, par le peuple. Donc en gros, nous avons des institutions qui verrouillent en partie la démocratie et ça nous permet de ne pas voir arriver des gens qui pourraient potentiellement mettre en danger notre conception
L'argument
de la démocratie.
L'argument aussi, c'est que l'élection c'est du terrifiant. Président de la République au suffrage universel lui donne une légitimité que personne d'autre ne peut avoir dans
vrai,
le pays, pas même la majorité parlementaire.
Oui, mais alors Raphaël. Là, mon problème à moi, c'est que ça a marché dans sa logique cette fois-ci, mais avec un système comme la Ve République, à 4% près, des candidats qui ne plaisent pas du tout à Alain Duhamel peuvent se retrouver face à face au deuxième tour et vous leur confiez un pouvoir, alors là, encore beaucoup plus grand qu'en Italie ou ailleurs. C'est-à-dire que ça se joue à très peu de voix, les présences au deuxième tour finalement, à très peu de pourcents. Donc ce système qui permet de donner tous les pouvoirs à quelqu'un qui a fait 24% au premier tour, peut se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre que Emmanuel Macron avec des contre-pouvoirs très faibles. Donc moi je ne pense pas que l'argument de la verticalité monarchique.
Oui, mais c'est un drôle d'argument parce que au second tour, c'est toujours le candidat du système qui gagne, pour le dire dans les termes de Natacha.
Et le jour où vous avez deux candidats anti-système face à face au second tour, souvenez-vous, c'est la grande peur qu'on a voulu nous faire en 2017. Mon Dieu, vous risquez d'avoir Mélenchon-Le Pen. Votez tous Macron dès le premier tour pour éviter ça.
Si vous avez Mélenchon-Le Pen, Alain Duhamel, il fait comment ? Parce que là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aura un candidat avec toutes les manettes de la Ve République au pouvoir et qu'il sera d'autant plus difficile à contrer que
donc
le système...
Donc vous ne voyez pas le système présidentiel comme une protection.
Ah mais je pense
vous
pas ne dites du tout pas que ce soit un garde... Mais non, mais moi je ne pense pas du tout que ce soit un garde-fou. Et surtout, je ne pense pas qu'on doive concevoir un système politique en fonction des votes à un temps T. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut concevoir un système politique dans l'idée justement que le jour où des diables, pour paraphraser Kant, prennent le pouvoir, eh bien, ils ont des capacité d'action plutôt limitée. En France, si vous avez un dirigeant extrémiste qui prend le pouvoir, eh bien, il a un pouvoir exorbitant.
Natacha.
Eh bien, moi, pour tout vous dire, je ne pense pas qu'il faille concevoir un système politique qui permette d'éviter à un moment donné que la volonté du peuple ne se porte sur quelqu'un que l'on juge peu recommandable. Je crois qu'il faut concevoir un système politique qui permette que le peuple n'ait pas envie d'aller vers des représentants qui vont l'emmener sur un chemin de radicalité, éventuellement de haine et de ressentiment. Mm-hmm. Parce que je pense que le ressentiment est un ressort éminemment dangereux. Donc je pense que le meilleur système est celui qui, justement, qui n'organise pas la préservation des privilèges, parce que cette préservation des privilèges conduit mécaniquement au ressentiment d'une grande partie du peuple qui veut abattre ces privilèges.
Là-dessus, on sera d'accord. Et il n'y a pas d'exception française pour Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, tout le monde regardait l'Italie en disant « il y a une exception italienne ». Il faut se souvenir de Matteo Renzi à 41% des voix aux élections européennes. Tout le monde disait « Oh, quelle exception italienne !» Là-bas, la gauche, ça marche. Là-bas, il y a un dirigeant pro-européen qui est ultra populaire. Aujourd'hui, le Parti démocrate est dans les limbes et on a la Ligue plus le mouvement 5 étoiles au pouvoir.
Mais si la gauche et les pro-européens cherchent à se consoler en France, il leur suffit de regarder de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, on regarde plus de l'autre côté des Alpes, mais des Pyrénées.
Pardon, mais l'Espagne, là aussi, est un cas assez spécifique. D'abord, on ne peut quand même pas faire abstraction du fait que l'Espagne, aujourd'hui, paye le Parti populaire, la corruption absolue du Parti populaire, un système où une des formes du ressentiment et de la colère s'est exprimée par l'autonomie, par les autonomistes et notamment en Catalogne. Donc tout ça modifie évidemment la situation par rapport à ce que nous vivons.
La situation mais n'empêche que la colère est là. Extrêmement fragile puisque c'est un gouvernement minoritaire.
Mais bien sûr.
Mais laissons voir et essayons. Je veux dire, là, il y a un jeune dirigeant de gauche qui a dit qu'il allait mener un programme réformiste. On va voir ce que ça donne. Après, ce qui est certain, c'est que l'âme de fond, elle touche absolument tous les pays. Et que c'est une tendance aujourd'hui dans l'élite française de se dire « Ouf, nous ne sommes pas touchés ». Mais souvenons-nous du résultat du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Et il y a une capacité comme ça à avoir une mémoire de poisson rouge qui est absolument fascinante. Mais enfin, au premier tour de l'élection de 2017, en gros, les gens qui étaient remis en cause ou qui remettaient en cause les élites françaises étaient majoritaires.
Et la seule question à se poser, c'est pourquoi cette colère ? Parce qu'il y a un système qui détruit les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux.
Le grand face-à-face de France Inter continue et il va y avoir du sport maintenant.
Le grand face-à-face, Ali Badou. Sur France Inter.
C'était mardi, le président de la République était en visite à Clairefontaine et il nous appelait tous à être derrière l'équipe de France pendant la Coupe du Monde.
Alors vous êtes tous d'immenses stars dans chacun de vos clubs. Pour le pays, et vous êtes des vedettes que des tas de jeunes attendent, auxquels ils rêvent. La clé du succès, c'est que ce sera votre succès à tous. C'est l'équipe de France. C'est la cohésion et l'unité.
J'ai déjà dit que si elle passait les quarts, j'irais à tous les matchs. Une compétition, elle est réussie quand elle est gagnée.
Emmanuel Macron qui a réclamé du fair play, de l'effort, de l'unité et surtout une deuxième étoile, un deuxième trophée après celui de 98. J-4 avant le début de la compétition en Russie. Notre invité jusqu'à 14h est écrivain, journaliste à l'équipe et l'un des meilleurs spécialistes du football en France. Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour.
Il faut voir la joie de Raphaël et de Natacha depuis qu'on sait qu'on vous reçoit.
Enfin
Raphaël, vous faisiez une déclaration d'amour avant de démarrer, ce qui normalement doit être un débat. Mais avant de parler d'amour, parlons du devoir. Est-ce que c'est un devoir patriotique de soutenir l'équipe de France, Vincent Duluc ?
Non, il n'y a absolument aucune raison. Pour moi, c'est une conséquence affective d'une vie dans le foot, mais je ne vois pas ça comme un devoir patriotique. Non, et le discours du présidentiel, je trouve qu'il ressemble autant. On a l'impression qu'il visite des grands patrons et qu'il leur dit « Bon, les gars, il faut gagner ce marché, quoi. » Donc voilà, je trouve que c'est un peu la limite du discours, mais moi, je vois plus ça comme l'équipe de France, comme un lien affectif qui remonte à l'enfance que comme un devoir patriotique ponctuel.
Passion nationale ou souvenir d'enfance ?
Ah, c'est un peu la même chose. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est la même chose. En tout cas, moi, dans mon histoire, ça s'est confondu. Donc après, je saurais pas faire le.
Un souvenir partagé qui devient une passion nationale.
Oui, c'est un peu ça.
Oui, mais alors justement, toute la question du lien entre le foot et la patrie, c'est quand même totalement liée dès le début de l'histoire du foot. C'est-à-dire qu'il y a des récits de football, d'équipes de football incarnant l'espoir ou la richesse ou la grandeur de leur patrie ou l'amour, tout simplement, l'envie de se défendre, qui sont d'ailleurs des légendes absolues. C'est évidemment le Dynamo de Kiev en 42, donc l'équipe.
Évidemment, le Dynamo de Kiev en 42.
On s'en souvient tous.
La Hongrie, la fameuse équipe de Hongrie.
Non, mais parce que cette histoire du Dynamo de Kiev, des joueurs de l'équipe qui sont obligés de jouer face à une équipe allemande, les types crèvent de faim, les types sont épuisés et on leur dit si vous gagnez, vous mourrez. Et les mecs se mettent à jouer et une fois sur le terrain, et ben ils jouent pour gagner et ils gagnent et ils ont été fusillés. Et ça raconte ce que c'est que l'espèce de transformation de soi qui peut s'opérer dans un jeu
qui n'est pas nécessairement national d'ailleurs,
non, bien
parce
sûr,
qu'il y a aussi un football d'amour de sa ville, quoi. Enfin, quand on va en Italie exemple, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en France on a l'image comme ça de l'équipe nationale. Moi je parle sous le contrôle de Vincent Duc qui est mon maître absolu sur la question, mais en Italie par exemple où l'état national est moins fort dans la psyché collective, les villes, je sais pas, un Romain, il est d'abord pour la Roma, quoi, et ensuite pour l'équipe italienne.
C'est la scène fantastique de la demi-finale de la Coupe du Monde 1990 à Naples, où j'étais, dont le dieu était Maradona, la demi-finale était Italie-Argentine, et les Napolitains étaient pour l'Argentine et pas pour l'Italie. Ils en avaient marre de se faire traiter à chaque fois qu'ils allaient à Milan ou qu'ils allaient à Turin de Terroni, de paysans.
Et Zenga avait pas pris un but, voilà. Et il se prend un but de Maradona marqué de la main.
En 90, il était limite son but.
Je me souviens très bien, il était très très limite.
Moi, j'ai assisté à deux scènes à Rome, parce que j'ai habité à Rome. La première scène, c'est la victoire de la Roma dans le championnat italien, dans l'équipe de Battistuta. Pendant 15 jours, il y a une fête, mais dingue, dans toute la ville. Et malheureusement, j'ai assisté aussi à la scène de la victoire de l'Italie en 2006. Et franchement, ils ont fait la fête pendant une demi-soirée. Et ils sont rentrés chez eux. C'était pas comme 98 en France. Donc en France, il y a un surinvestissement dans l'équipe nationale qu'il n'y a pas forcément dans tous les pays.
Mais en même temps, historiquement, le lien patriotique entre le foot et le peuple, il remonte sur la volonté quand même du pouvoir. Par exemple, quand l'Italie de Mussolini organise la Coupe du Monde en 1934, c'est clairement pour asservir un peu quand même.
En trichant un peu d'ailleurs.
Et en même temps, quand l'Allemagne remporte la Coupe du Monde 54 contre votre Hongrie, Raphaël.
Ouais, je m'en guérirai jamais.
Mais c'est ce qu'ils appellent le miracle de Berne. C'est le socle de la reconstruction de l'Allemagne, finalement, cette victoire-là. Oui, donc en fait, il y a quand même toujours un lien particulier.
Pourquoi s'investit dans ce sport-là? Parce que ce qui est assez fascinant, la Coupe du Monde va démarrer. On estime que 3,5 milliards de personnes ont regardé au moins quelques images de la précédente. On peut imaginer que ce sera de nouveau la moitié de l'humanité qui assistera d'une manière ou d'une autre à ce spectacle. Vous arrivez à comprendre que cette passion soit planétaire, elle est à chaque fois extrêmement locale, individuelle, nationale, mais vous le disiez aussi, elle dépasse très largement les frontières des villes et des nations.
Mais c'est le sport le plus universel, donc sans doute parce que c'est le seul sport collectif qu'on puisse jouer sans ballon, c'est-à-dire qu'avec un chiffon, une paire de chaussettes, mais vous débrouillez quoi.
Une boîte de conserve,
exactement. C'est le seul sport qui voilà où tous les gabarits, par exemple aujourd'hui, peuvent encore jouer. Si vous regardez les sports collectifs, il y a une évolution des gabarits dans le rugby qui est devenu un sport de confrontation puis d'évitement. Il y a même les gabarits dans le basket, dans le hand. Mais dans le foot, c'est pas le cas. Les petits, les maigres, ils ont toujours leur place. Donc je pense que c'est pour ça que c'est le sport qui va rester universel et c'est pour ça qu'il marque autant les esprits.
Natacha.
Cela dit, il évolue ce sport. C'est-à-dire que là, on est en train d'évoquer l'histoire glorieuse du sport. Il y a aussi une date dans l'histoire du football, c'est 1995, l'arrêt Bosman. C'est-à-dire l'autorisation pour les clubs européens d'avoir plus de 3 joueurs qui ne sont de.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de l'Europe dans la bouche de Natacha.
Non, mais c'est.
Natacha Polony, la souverainiste du football.
Alors pour le coup, on vient d'expliquer à quel point là justement il y avait quelque chose d'affectif. Mais ce moment-là est un basculement. On voit aujourd'hui que la géopolitique est en train de gagner dans le football, c'est-à-dire que la Chine s'est positionnée. Face à cela, on a les États-Unis qui s'associent à l'Arabie Saoudite pour essayer d'avoir la Coupe du Monde de 2026, pour mettre en place une Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la mondialisation totale. On a vu l'Arabie Saoudite quand même qui a fait pirater les décodeurs beIN Sport dans tous les pays arabes. Enfin, tout ça est assez délirant. Alors, on continue à aimer le foot pour un beau geste, pour un beau match. Et pour un moment de grâce. Mais tout de même autour, c'est pas très reluisant.
Vincent Duluc.
Je pense que ça n'a jamais été spécialement reluisant autour, qu'il y a peut-être une angélisation après coup de ce qu'était le foot avant. Je pense que ça a toujours été la même chose. Moi, je reste passionné pour le foot, pour le plaisir dans l'escalier juste avant comme ça, et pour le côté feuilletonesque. Pour moi, une saison, c'est comme une série. C'est saison 37, épisode 28. Et je sais exactement où j'en suis, où en sont les personnages. Et aussi, vous parlez de l'arrêt Bosman. C'est vrai que l'arrêt Bosman a fait exploser les salaires. Et c'est devenu une activité totalement capitaliste et cynique. Et en même temps, ça aboutit à une concentration des meilleurs joueurs qui aboutit à un niveau de jeu et du coup à quelque chose d'esthétique qui est quand même sans précédent. Donc c'est compliqué.
Le football n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui pour vous, Vincent Duluc.
Pour moi, il s'est jamais joué aussi rapidement avec autant d'artistes. C'est-à-dire, on vit tous sur le mythe, non, ma génération, sur le mythe de Pelé, le plus grand joueur de tous les temps qu'on voyait jouer une fois tous les 4 ans. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Lionel Messi, on le voit jouer tous les 3 jours et tous les 3 jours, il est fantastique.
Ouais. Et en plus, l'arrêt Bosman qui entraîne bien sûr des problèmes. Mais n'empêche pas encore qu'il y ait ce lien d'identification. Il y a des globe-trotteurs qui vont changer de club tous les mois pour augmenter leur salaire. Mais après, il reste des phénomènes incroyables. Hamsik, qui est slovaque et qui devient mais plus napolitain que les napolitains, qui est l'incarnation même de la ville de Naples. Alors, pas encore au niveau de Maradona, mais c'est quand même impressionnant le lien qu'il a. Moi, j'ai suivi Hamsik dans les rues de Naples. C'est une folie, quoi. Et ça reste quand même ce lien-là. Après, il s'oppose à une logique capitaliste basique. Moi, je peux en parler parce que je suis un vrai traumatisé de cette logique. Moi, je suis supporter du PSG depuis le but de Sosé contre l'équipe de Susic en 1989, où j'étais tout seul devant ma télé, j'avais 10 ans et j'étais effondré. J'avais l'impression qu'il n'y aurait jamais rien de plus horrible qui allait m'arriver dans l'existence. Bon, après, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des choses pires, mais toute ma vie, j'ai rêvé que Paris puisse avoir une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Et tout d'un coup, on se retrouve avec Neymar, et c'est comme si vous rêvez d'une sucette, on vous la donne, et puis en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un goût de morue sur la sucette, quoi. C'est-à-dire que c'est
Neymar,
parce que tout d'un coup, il y a tellement de fric à Paris que le championnat de France devient un peu moins intéressant quand même. Enfin, faut le reconnaître. Et moi, j'ai toujours rêvé que Paris écrase le championnat de France. Mais ça arrive d'une manière qui me laisse un goût amer dans la bouche, peut-être un vieux fond de gauchisme qui a du mal à
passer. Vincent Duluc.
Mais ça fait écho à une espèce de contre-culture qui naît doucement dans le foot. Il y a des supporters qui quittent les clubs dominants pour supporter des clubs marginaux. Par exemple, quand les Américains ont pris le contrôle de Manchester United, il y a des supporters ont créé le SC United qui est parti dans une toute petite division. Quand le club de Wimbledon fusionné avec Milton Keynes, une ville sans intérêt à 60 km à l'ouest de Londres. Des supporters ont créé le FC Wimbledon qui vient de dépasser Milton Keynes et de monter en 3e division. Donc il y a des histoires comme ça qui existent.
Et malgré tout, Manchester United reste sans doute le plus grand club du monde,
le
l'un
plus riche,
des plus grands clubs, le plus riche,
en tout cas le plus riche
de la planète.
Et la passion Red Star.
Raphaël Luxman.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à devenir fans du Red Star.
François Hollande est l'un des grands supporters du Red Star.
Oui, mais malgré tout, ils font toujours pas beaucoup de monde au stade quand même.
Mais quand on parle du foot, alors moi j'ai une tendresse absolument profonde pour un livre qui a trouvé les mots pour raconter ce que moi je ressentais devant un match de foot. C'est le livre d'Eduardo Galeano, Le football, ombre et lumière, qui est un chef-d'œuvre, qui est d'une beauté incroyable. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit au début. Il dit les années ont passé, j'ai fini par assumer mon identité. Je ne suis qu'un mendiant de bon football. Je vais par le monde, chapeau à la main, et dans les stades, j'implore une belle action pour l'amour de Dieu. Et quand j'assiste à du bon football, je remercie pour ce miracle en me fichant pas mal, que ce soit tel club ou tel pays qui me l'offre. Mais il explique surtout, voilà, que tout cela. Alors lui, évidemment, est un nostalgique. Il se clash dans les nostalgies. Pour lui, le foot a changé. Et il explique que la magie du foot, c'est en effet qu'on peut jouer avec une pelote de laine ou n'importe quoi. Mais il dit, par bonheur, on voit encore sur les terrains, très rarement, il est vrai, un schnappant effronté qui s'écarte du livret et commet l'extravagance de feinter toute l'équipe rivale et l'arbitre et le public dans les tribunes pour le simple plaisir du corps qui se jette dans l'aventure interdite de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de liberté profonde encore chez des stars qui sont payées des millions et qui, tout à coup, vont exprimer ce qu'un corps humain peut exprimer.
Mais le paradoxe, du coup, et là on rentre un peu dans l'analyse du foot moderne, c'est qu'il n'y a plus que les stars qui ont droit à cette liberté, presque. C'est-à-dire que ceux qui peuvent vraiment s'affranchir du cadre collectif et les consignes de l'entraîneur, c'est les stars. Il faut être Neymar pour dire, je défendrai dans un mois, peut-être si j'ai envie, mais en attendant, il n'en est pas question. Les autres sont obligés de se plier à ça.
Il faut être Lionel Messi pour pouvoir imposer, par exemple, un entraîneur ou même influer sur la composition de l'équipe de Barcelone. Il faut être Absolument. Ronaldo, par exemple,
oui,
pour
mais je pense que
avoir
Messi,
la même dimension.
Je pense que Messi est un tyran. Mais que de la même manière que l'était Michael Jordan au basket, c'est-à-dire que ces joueurs supérieurs sont ceux qui font gagner l'équipe, et c'est pour ça qu'ils aimantent les autres et que les autres se soumettent.
Il y avait un numéro de l'équipe le 13 juillet 1998 qui est resté dans les mémoires, un titre pour l'éternité avec Zidane de dos à genoux face à Youri Djorkaeff et Emmanuel Petit. Ce numéro-là, vous l'avez réédité, c'était une manière de réactiver le souvenir, de réactiver le beau souvenir de ce qui s'est passé le 12 juillet 1998.
C'est une manière de fêter les 20 ans et on a vu sur toutes les ondes et partout que tout le monde fêtait les 20 ans et que tout le monde avait décidé de les fêter avant que commence la Coupe du Monde, des fois qu'on aille très loin et que le 12 juillet prochain soit occupé par autre chose. Mais en attendant, bien sûr, c'était pour se souvenir, parce que d'abord on en avait tiré, je crois, 1 630 000, quelque chose comme ça, le 13 juillet 98, et pour réactiver ça. C'est un journal assez étrange, il avait une telle importance industrielle qu'il n'y a pas une seule photo de la Coupe du Monde et il n'y a pas une seule déclaration.
L'équipe.
Absolument, ce qu'aujourd'hui n'arriverait plus du tout.
Mais c'est impensable. Mais non, mais je reviens sur ce numéro-là et juste sur l'influence qu'a votre journal sur la façon dont on perçoit l'équipe de France en France, c'est la manière aussi dont vous êtes quasiment dans des rapports de pouvoir avec la sélection, avec les Bleus. On se souvient justement de 98, les relations étaient extrêmement compliquées, notamment avec Aimé Jacquet, et en même temps c'est votre journal qui est resté dans les mémoires comme celui qui devient le monument qui commémore cette grande date du 12 juillet 98. C'est pas évident de couvrir le foot, c'est absolument pas neutre quand on est journaliste sportif.
Non, c'est un paradoxe, mais je pense que 98 a marqué un basculement, parce qu'effectivement nos relations avec Aimé Jacquet, tout le monde le sait, étaient très conflictuelles. Il nous en a voulu. Le soir même de la compétition, il a dit qu'il pardonnerait jamais. Et en même temps, nous, l'équipe, on n'a jamais vendu autant de journaux que dans les 4 ans qu'on suivit, avant qu'Internet arrive. Enfin voilà, c'était assez incroyable. Mais et en même temps, ce 98 a lancé l'ère du débat. C'est-à-dire que jusque-là, très honnêtement, il n'y avait pas de débat sur le foot, comme si ce n'était pas une matière assez noble pour susciter le débat au-delà des spécialistes. Et après, même s'il y a une confusion quand même, je pense, entre la culture du foot et la culture de la victoire, le débat est devenu possible. Donc je pense que l'affaire Jacquet qui arrive en 98 n'aurait pas pu arriver après, en fait.
Quand vous dites confusion entre la culture du foot et la culture de la victoire, ça veut dire qu'on a reconstruit aussi a posteriori cette histoire-là et qu'on a fait de cette victoire quelque chose qui peut-être était trop lourd à porter. D'où ce qui s'est passé ensuite, me semble-t-il. D'abord le fameux match France-Algérie d'octobre 2001 qui vient briser le fantasme d'une France black-blamber qui aurait marché uniquement comme ça. Je pense qu'il y a une réalité à cette France black-blamber.
Ça la reflétait vraiment, finalement.
Ça la reflétait vraiment et c'était excessif et ça a été instrumentalisé. Ça se brise en 2001 et ensuite en 2002 avec la Coupe du Monde où on voit ces joueurs qui ont été déifiés tout à coup se planter
Zidane.
Totalement sans doute parce qu'ils ont été portés au pinacle.
Zidane.
Oui oui, ça toujours. De toute façon, quand il manque Zidane, on a du mal
mais c'est vrai que depuis la France Black Blamber, il faut faire ça nous a poussé à faire l'inventaire. Je pense que c'est le principal tort de la France Black Blamber.
L'inventaire, c'est-à-dire
combien de blacks, combien de bleus, combien de blancs, blanc. Combien de blacks, combien de beurre.
Mais tous bleus
et tous bleus, voilà.
Bleu.
Mais par exemple, avant l'Euro 2016, Jamel dit qu'il se reconnaît pas dans cette équipe parce que soudainement, il n'y a pas de beurre.
Non, mais ça, c'est un problème de l'identification.
Donc voilà, après, ça renvoie à d'autres choses.
Moi, je me souviens de cette une, parce qu'en fait, cette Coupe du Monde, c'est mon entrée dans l'âge adulte un peu tardive, je suis désolé, mais parce qu'en fait, de 89...
Bienvenue dans Confessions Intimes.
De 89, écoutez-moi, c'est hyper important, il faut que je me lise.
Luxman se raconte.
89 à 98, moi, je lis l'équipe vraiment comme un chrétien ou un juif lit la Bible, c'est-à-dire ou un musulman. Le Coran, c'est-à-dire que c'est vraiment mon point de vue sur le monde est façonné par l'équipe, parce que c'est le seul journal qui ça rejoint mon Oedipe, parce que c'est le seul journal qui est pas à table en fait. Ça va de l'Humanité au Figaro, l'équipe est pas là, donc moi évidemment je me vote dans l'équipe et ça façonne ma vision du monde. Et en fait, donc du coup, moi j'adhère à la campagne contre Jacquet, si je suis honnête, et là je fais ma confession.
En 98.
Je regarde les matchs amicaux, je trouve ça mais hyper pauvre et je me rue sur l'équipe le lendemain pour dire allez là, faut mettre la pression. Et tout d'un coup, cette équipe de France nous illumine et nous transcende. Et du coup, après, j'ai une distance un peu vis-à-vis de votre écriture, ce qui est pas mal parce que ça veut dire que je vous lis comme un texte de philo, plus comme un texte religieux.
Mais est-ce que c'est le 12 juillet 98 quelque chose qui appartient à la mythologie, un fantasme, une illusion? On s'est trompé sur ce qu'était la France même à ce moment-là? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le dernier moment de communion nationale authentique vécu dans ce pays, un moment aussi d'insouciance? C'était avant les attaques terroristes, avant qu'on puisse avoir la peur d'aller se promener dans la rue collectivement, regarder un match sur un écran géant, ce qui ne sera pas possible pour cette Coupe du Monde.
Mais je pense que les deux, en fait, on s'est trompé sur ce que ça allait changer, mais on s'est pas trompé sur ce qu'on a tous ressenti. J'ai revu l'autre jour, je crois que c'est sur France 2, l'espèce de récit collectif de cette soirée-là. En fait, autant la manière,
formidable documentaire, voilà,
autant la manière dont les vainqueurs ensuite racontent leur histoire me lasse et m'intéresse pas, autant ce récit collectif continue
avec
de me toucher au plus profond.
Voilà, je trouve que du monde.
Voilà, c'est vraiment touchant. C'est ce qui m'a le plus replongé vers l'état d'esprit qu'on avait cet été-là.
Mais l'immense problème, c'est pas tellement l'équipe de France ou le sentiment qu'on a ressenti, c'est que la politique, qui est devenue complètement impuissante à produire du récit collectif, a regardé l'équipe de France et s'est dit « Waouh, super, on n'a pas besoin de produire un récit commun, on a l'équipe de France ». Mais enfin, au bout d'un moment, c'est comme le truc de « on va émanciper les gens par le sport et les intégrer à la République ». Il y a un moment où c'est utile, c'est bien des symboles collectifs, mais la politique peut pas se résumer à Zizou président sur les Champs-Élysées.
Et pourtant, on en est encore là aujourd'hui, et c'est cela surtout qui est frappant, c'est-à-dire que
on n'a pas essayé Zizou président.
Non, mais là, Zinedine Zidane fait une conférence de presse et immédiatement, on voit même des journalistes se dire mais pourrait-il s'engager en politique, etc. Ce qui prouve en effet la fragilité de nos repères et de notre capacité d'identification collective. En effet, s'il ne nous reste que l'équipe de France, c'est un petit peu problématique.
Mais quand le président de la République espère ou réclame une deuxième étoile, est-ce qu'il revendique vraiment un deuxième trophée pour l'équipe de France ou est-ce qu'il essaye de réclamer un nouveau moment de communion, un nouveau moment où la France se réconcilierait avec elle-même?
C'est-à-dire que s'il réclame une communion, il la lie pas forcément à la victoire. Or, lui, il a l'air de lier son engagement à l'éventuelle victoire. C'est ça qui est un petit peu choquant. On peut très bien communier autour de l'idée d'une équipe ou l'idée d'un bel été passé ensemble sans dire je ferai tous les matchs de la Coupe du Monde après les quarts de finale, parce qu'il n'en reste que deux quand même en plus. Donc il y a moyen peut-être de s'engager de manière plus sincère et différente.
Les Bleus sont l'une des équipes les plus jeunes de la compétition. Les Français ne les connaissent pas tous, les connaissent même mal. On va en découvrir un très grand nombre. C'est assez frappant, on s'identifie donc à un collectif dont on ne sait pas grand-chose au fond, à part le nom de son sélectionneur Didier Deschamps et quelques figures qui émergent. Mais le grand public ne les connaît pas encore.
Le très grand public sans doute pas, mais le problème c'est qu'il en reste que 9 de la Coupe du Monde il y a 4 ans, et il en reste que 6 de la Coupe du Monde il y a 4 ans et que 9 de l'Euro d'il y a 2 ans. Donc effectivement c'est un renouvellement assez rare. Je crois que c'est la troisième équipe la plus jeune de la Coupe du Monde. Donc voilà, on n'en sait pas grand-chose, mais c'est pratiquement son charme. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de jeunesse pour laquelle on ne peut pas imaginer de limite. Et ça va forcément provoquer un petit peu d'indulgence dans un premier temps et une identification un peu plus rapide, je pense.
Et puis il y a un potentiel dingue. Si on est honnête dans cette équipe, il y a un potentiel offensif complètement hallucinant.
Après, mais Raphaël, gagne-t-on les Coupes du Monde grâce à l'attaque?
Ah non, c'est une vraie question. C'est une vraie question, on pourra en parler. Mais en tout cas, on charme les nations par l'attaque.
Absolument.
Et moi, mon petit problème dans son truc de « il faut gagner », effectivement, c'est que c'est un discours quand même assez italien ou allemand old school. C'est-à-dire que vous allez me rapporter une étoile. En France, la passion collective dont vous parliez au début, elle est née sur des équipes de losers. C'est-à-dire que l'émotion dingue, c'était la France de 82, de 86, de 84, elle a gagné. Mais ce beau jeu, Platini, Giresse et tout ça, où finalement...
Jamais la passion ne s'exprime aussi fortement qu'au moment d'une victoire.
Bien sûr,
mais la question est celle du panache. Et le football est un sport aussi où l'on peut reconnaître le panache. D'abord, c'est un des rares sports, tout de même, où la surprise est possible. C'est-à-dire que c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Et c'est ça qui est beau.
Le seul sport collectif où effectivement le résultat peut n'avoir rien à voir du tout avec le rapport de force. Dans les autres sports collectifs, le rapport de force dicte le résultat, pas au foot. Ouais.
Et du coup, la beauté du jeu enflamme.
Par exemple, quand vous regardez la Champions League, il arrive rarement que ce soit un club avec du panache.
La Roma cette année...
Mais c'est sur un match, tout peut basculer, en revanche. Alors après, une accumulation de matchs, vous avez tout simplement un phénomène statistique qui fait que les plus forts ont tendance à gagner. Mais sur un seul match, il peut se passer des trucs de dingue. Et ça permet d'enflammer.
Et même sur un championnat, Leicester...
Oui.
Oui, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que les palmarès, en fait, ont très peu d'imagination, mais qu'il y a des histoires invraisemblables sur des matchs d'un jour de Coupe de France avec des héros d'une soirée.
Je vais faire le Alibadou. Quel est votre plus gros regret? C'est-à-dire, enfin, moi, je sais, moi, je me remettrai jamais du fait.
Je me reconnais absolument pas dans cette question.
Je me remettrai jamais de
pire
cette équipe de Hongrie de 54 qui aurait dû battre l'Allemagne. Mais sinon, vous, c'est quoi le truc? C'est le Brésil de 82 qui aurait dû être champion du monde? C'est quoi?
Enfant, c'est le Brésil de 82 qui perd contre l'Italie.
Ouais.
J'ai eu beaucoup de mal. J'ai porté le deuil de Socrates et Zico pendant des jours. Mais Séville, je m'en suis toujours pas remis.
C'est
un espèce de. J'arrive pas à savoir si c'est un souvenir magnifique
pour
ou un traumatisme
les rares
absolu.
Les Français qui savent pas, c'est 82, oui. Séville 82.
Vous avez encore mal pour Baptiston. Je vais reprendre la question de Raphaël Glucksmann. Est-ce que le plus grand regret, pour le coup, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui? Depuis que Zidane a décidé de ne plus entraîner le Real Madrid, au fond, beaucoup de Français regrettent qu'il ne soit pas le sélectionneur de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. C'est extrêmement injuste pour Didier Deschamps, mais vous comprenez ce que je formule?
Mais je comprends tout à fait, parce que jusque-là, Didier Deschamps était le meilleur sélectionneur possible. Désormais, il y a un autre meilleur sélectionneur possible. Du coup, ça crée une confusion, ça va déplacer un peu le curseur au niveau de l'objectif à atteindre. C'est-à-dire que jusque-là, s'il était en quart de finale, il était sûr de rester. Maintenant, s'il est en quart de finale, il y aura un débat. Mais ça, même si je suis pas fan de tout chez Didier Deschamps, et par exemple, je trouve qu'il est tellement pragmatique que du coup, il a pas de style de jeu, mais il n'empêche que ce qu'il a fait jusque-là est plutôt bien, est plutôt solide, et qu'il mériterait d'être un peu plus tranquille. Mais c'est fini d'être tranquille, on est dans le foot moderne et ça n'arrivera plus.
Oh, vous le laissez plutôt tranquille dans l'équipe?
Oui, ça dépend des jours, des fois on le titille un peu, il n'aime pas toujours, ça dépend des jours.
Natacha Polony, il reste
oui,
une minute.
Alors parlons on l'a évoqué, hein, le rapport entre les politiques et le football. Parce qu'on voit bien qu'en France, comme dans beaucoup de pays, mais là c'est très frappant, on ne peut pas être président et ne pas jouer à celui qui aime le football ou l'aimer sincèrement. Alors Emmanuel Macron nous raconte l'OM de 93.
J'ai fait une interview de François Hollande dans l'équipe magazine de ce samedi.
Exactement. Et aussi, est-ce que vous pensez qu'on pourrait réellement envisager un président de la République ou une présidente de la République qui n'en aurait strictement rien à faire du football? Est-ce qu'il manquerait quelque chose à sa dimension présidentielle?
Moi, ça m'est égal qu'il ne soit pas fan de football. Je veux juste qu'il soit sincère dans les deux cas, finalement, c'est tout. Soit qu'il soit sincère parce qu'il ne l'aime pas, soit qu'il soit sincère parce qu'il l'aime. C'est tout, c'est la seule chose.
Mais jusqu'à présent, la plupart des présidents de la République ont quand même manifesté leur amour pour l'équipe nationale, si on accepte Valéry Giscard d'Estaing ou Georges Pompidou, peut-être le général, mais...
Oui, je pense que Chirac, la sincérité a commencé avec Chirac, et encore, je pense qu'elle était un peu ambiguë, mais qu'avant, c'était du flan. Bon.
C'était du flan.
Mais c'est devenu aujourd'hui une forme de spectacle, de mélange du spectacle sportif et du spectacle politique.
Mais ça a commencé il y a longtemps, pendant la Coupe du Monde 58, où René Coty se faisait prendre en photo dans son salon avec son valet qui était autorisé à regarder la demi-finale France-Brésil.
Donc rien de nouveau sous le soleil. Bon, écoutez, on croise les doigts. Merci infiniment Vincent Duluc. Bonne Coupe du Monde. On lira l'équipe, comment vous disiez Raphaël. Comment on lit la Bible pendant toute la compétition.
Enfin, j'ai évolué, j'ai dit. Hein.
Et les doigts croisés. L'émission se termine. Natacha, Raphaël, je vous dis à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier qui a préparé cette émission, à la réalisation Marion Lelay, à la technique Théo Lacombrade. À suivre Zoé Varier et sa journée particulière.